Bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons vu que les calamités de notre société sont le résultat de la méconnaissance des lois divines. Moïse avait expliqué au peuple d'Israël que, s'il observait les lois divines, il jouirait d'une grande renommée parmi les nations environnantes. Israël devait prouver au monde la perfection de la loi divine et les avantages de sa mise en application. Israël fut une grande nation durant le temps où ce système législatif fut en vigueur. Cette nation vit son apogée à l'époque du roi Salomon. Dieu donna la paix, la richesse, la santé, le bonheur à Israël, parce que le roi Salomon, comme son père David avant lui, conduisait le peuple dans la voie de l'obéissance à tous les commandements, les statuts et les jugements du Seigneur. Le roi David fit une recommandation particulière à son fils Salomon avant de mourir. La voici. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » La loi est appelée la loi de Moïse, car le peuple, effrayé par la loi de l'Éternel, préféra que Moïse se charge du rôle d'intermédiaire. Le prestige d'Israël fut un sujet d'admiration pour les autres nations. Beaucoup de personnes, et notamment la reine de Séba, furent émerveillées de la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, mais aussi par la prospérité, la santé et le bonheur du peuple. Malheureusement, Israël se détourna de Dieu. Il se mit à pratiquer l'idolâtrie, se prosterna devant les statues. Il alla jusqu'à rejeter le jour du repos, le septième jour qui avait été sanctifié par Dieu, et préféra honorer un autre jour qui était celui du Seigneur Baal, et supprima les fêtes annuelles de l'Éternel pour observer des jours émanant du paganisme. Savez-vous que notre société, qui se dit chrétienne, observe encore ces fêtes païennes de nos jours au lieu des fêtes de l'Éternel? Combien de gens ne se prosternent-ils pas devant les statues, prennent comme emblème la croix, observent des fêtes d'origine païenne qui n'ont plus aucun rapport avec les fêtes de l'Éternel qui, elles, ont été données à perpétuité? L'homme s'étonne de vivre dans une société où les maladies, les guerres, la pauvreté, la disette, la corruption, le chômage, les crimes, les viols et les vols sont monnaie courante. Le monde ne connaît plus la joie, la paix, la prospérité et la santé. Sans le savoir, il subit la malédiction, la conséquence de son refus de se soumettre à Dieu, préférant croire aux mensonges de Satan. Plus tard, la nation d'Israël se scinda. Jéroboam régna sur 10 tribus qui formèrent le royaume du Nord, dont la capitale était Samarie. Roboam, fils de Salomon, régna sur le royaume du Sud, le royaume de Juda, dont Jérusalem était la capitale. 200 ans plus tard, le royaume du Nord fut conquis par la Syrie et le royaume de Juda par Babylone un siècle plus tard. Lisons ce que l'Éternel annonce au roi Jéroboam. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Jéroboam se détourna de Dieu et mena la nation du Nord à l'idolâtrie. Lisons un extrait de ce récit historique. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Dans ce passage, le mot « Dieu » est traduit de l'hébreu « Elohim ». C'est ce même nom que nous trouvons dans Genèse, au chapitre 1, verset 1, où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». L'histoire a souvent tendance à se répéter. Lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, Aaron fit un veau d'or et lui donna ce même nom. Aaron fit un veau en fonte, et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel ». Ce veau d'or fut également baptisé « Dieu », traduit de « Elohim » et le mot « Éternel » est traduit de l'hébreu « Yahvé ». Cela vous semble énorme? Quelle insulte! Quel affront pour Dieu! Pourtant, de nos jours, on donne ce même nom à des images ou à des statues aux traits ne correspondant qu'à l'imagination de l'artiste et qui représentent, affirme-t-on, le Très-Haut ou le Christ. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pensez-vous que Dieu apprécie de voir les gens se prosterner ou adorer une image, une statue, alors qu'il l'a interdit dans le deuxième commandement? C'est par ignorance que les gens pensent bien faire en suivant les coutumes qu'on leur a enseignées. Mais savent-ils ce que Dieu souhaite vraiment? Et vous, vous intéressez-vous à ce que Dieu dit? Jacques écrit « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques explique ici, sous l'inspiration divine, que la loi est parfaite, qu'il s'agit d'une loi de liberté, car, en lui obéissant, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Celui qui l'observe sera heureux dans ses activités, il sera béni. Pourtant, la plupart des chrétiens sont persuadés que la loi est stricte, sévère, rigide, rigoureuse et austère. Voilà l'opinion qu'ils se font de la loi divine, sans vraiment la connaître, tout simplement parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Imaginez que vous soyez en prison dans le fameux couloir de la mort. Le tribunal vous a jugé coupable de meurtre avec préméditation et vous a condamné à mort. Le jour de votre exécution approche et le directeur de l'établissement pénitentiaire pénètre dans votre cellule. Vous pensez que le moment fatidique est arrivé et qu'il est venu vous l'annoncer. Mais à votre stupéfaction, il vous annonce que vous êtes libre. Le chef du gouvernement a signé votre grâce. Vous pensiez que votre vie était arrivée à son terme, mais voilà qu'une nouvelle vie s'ouvre devant vous. On vous offre la vie. Mais cette grâce, ce cadeau, vous autorise-t-il à commettre un nouveau crime? Non, bien entendu. Si un meurtrier gracié récidive, s'il transgresse la loi, il se retrouve à nouveau condamné. Cette situation hypothétique, je vous l'ai suggéré pour que vous ouvriez les yeux sur une aberration communément enseignée dans la plupart des églises chrétiennes. On enseigne aux gens que le Christ a payé l'amende de leurs péchés. C'est vrai, mais lorsque quelqu'un a accepté le sacrifice du Christ, peut-il dès lors vivre sa vie dans le péché comme il l'entend en transgressant la loi? Dans ce cas, le sacrifice du Christ serait le feu vert pour une société de débauche, de violence, de crime. Paul confirme, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsqu'un pécheur se repent et accepte le sacrifice du Christ pour ses péchés, il se trouve sous la grâce divine. Ses péchés lui sont pardonnés et la peine capitale prévue pour ses péchés est annulée. Mais cela ne lui donne pas le droit de continuer à vivre dans la désobéissance comme un hors-la-loi. La grâce divine et la foi dans le sang répandu par Jésus-Christ pour l'expiation des péchés doivent être accompagnées d'œuvres, c'est-à-dire d'une vie respectueuse envers la loi en se soumettant à elle. Beaucoup de chrétiens pensent ne plus être sous la loi, mais bien sous la grâce, tout en vivant sans tenir compte des lois divines. Or l'apôtre Jean a écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Vivre en marge des lois, ne pas les observer, c'est vivre dans le péché, c'est retourner sous la condamnation. Mais par son repentir et par la grâce divine, on peut recevoir le salut. La foi et l'obéissance sont toutes deux nécessaires pour l'obtenir. Le roi David écrit que les lois divines sont éternelles. L'apôtre Paul ajoute « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Il ajoute « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Jésus lui-même a affirmé « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Y a-t-il une ombre d'ambiguïté dans cette phrase? Bien au contraire, elle est claire comme de l'eau de roche. Mais qui devez-vous croire? Le Christ qui a déclaré qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de la loi, ou les hommes qui essayent de vous faire croire qu'elle est abolie, qu'elle a été clouée sur la croix, parce qu'ils confondent la loi spirituelle et la loi des sacrifices donnée plus tard et qui, elle, est abolie depuis le sacrifice du Christ. Lorsqu'il écrit « Christ est la fin de la loi », Paul confirme que le sacrifice du Christ annule la loi des sacrifices d'animaux. Ceux-ci préfiguraient uniquement le grand sacrifice de notre Sauveur. Par son sacrifice, Jésus mit fin à la loi des sacrifices, comme Paul le confirme dans son Épître aux Hébreux. Réfléchissez un peu et n'hésitez pas à aller au fond des choses pour comprendre. Dieu instituerait-il une loi sainte, juste et bonne, une loi spirituelle et permanente pour l'abolir ensuite sans raison? Peut-il être inconstant et changeant à ce point? N'oubliez pas que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les dirigeants de ce monde promulguent des lois pour le bien-être du public et dans l'intérêt des citoyens. Elles sont établies pour maintenir l'ordre et garantir la liberté. Il en est de même pour la loi spirituelle de Dieu. Elle fut prescrite pour le bien de l'humanité. La vaste majorité des hommes ignore la loi divine. L'homme ne sait comment vivre, mais Dieu ne l'a pas laissé dans cette ignorance. Il a donné à l'humanité entière sa loi sainte afin de réglementer la conduite de tous et de chacun. Sa loi explique comment l'homme peut vivre en harmonie avec son Créateur et avec son prochain, comment vivre heureux, comment jouir d'une bonne santé. La doctrine selon laquelle la loi n'existe plus est une interprétation tendancieuse des Écritures et va de pair avec l'immoralité grossière et la promiscuité sexuelle, les crimes, la corruption et j'en passe. L'homme est persuadé qu'il peut vivre selon sa conscience et lorsqu'il constate tous les malheurs qui s'abattent sur le monde, il a tendance à accuser Dieu de ne pas intervenir, d'être cruel, et il le rend responsable de tous les maux de la terre. Étudiez la loi divine, mettez-la en pratique, alors vous comprendrez que Dieu est à vos côtés, qu'il vous protège et prend soin de vous. C'est ainsi que vous serez un véritable disciple du Christ.